Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de Métropolez-vous, où il va être question aujourd'hui à la fois de patrimoine, de nature, d'environnement, de mobilité douce et de tourisme. Quel sujet, quel projet peut concentrer à lui seul toutes ces questions? Comme vous le savez, Toulouse et plusieurs communes de la métropole sont traversées par la Garonne. Et nous avons eu l'occasion d'évoquer dans cette émission le Grand Parc Garonne, un des projets phares de Toulouse Métropole dans le domaine environnemental, destiné à mettre en valeur les abords du fleuve pour les citoyens métropolitains, mais aussi pour tous ceux qui viennent sur notre territoire. La métropole toulousaine est également traversée par le canal du Midi et abrite deux autres canaux. À l'instar de la Garonne, la collectivité a décidé de mener un projet Grand Parc Canal pour les valoriser et mieux exploiter les atouts que représentent ce patrimoine et ses espaces de vie. En quoi consiste ce chantier et même ces chantiers de valorisation? Quels secteurs sont concernés? Quels sont les objectifs de ce projet? Et qu'est-il censé apporter à la métropole toulousaine? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de répondre au cours de ce numéro. Et l'élu métropolitain qui suit de près le dossier du Grand Parc Canal et les dossiers environnementaux de manière générale, c'est François Cholet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Bonjour et bienvenue à vous aussi, monsieur le vice-président.
Bonjour.
Afin de clarifier les choses pour ceux qui nous écoutent, je pense qu'il faut qu'on précise d'emblée que le Grand Parc Garonne et le Grand Parc Canal sont des projets bien séparés. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que sont l'un et l'autre et s'ils ont éventuellement des interactions et des complémentarités?
Alors effectivement, ce sont des projets qui sont séparés, mais qui sont par la force connectés. Ils s'intègrent dans cette idée qui est de valoriser sur le territoire de la métropole 5 grands parcs. Et ce sont deux des 5 grands parcs que nous souhaitons valoriser sur la métropole. Il y a le Grand Parc Garonne, le Grand Parc Canal dont nous parlons aujourd'hui. Puis il y a aussi le Grand Parc de l'Ers, le Grand Parc du Touche, le Grand Parc de la Margelle, qui sont un ensemble dans lequel nous déclinons cette volonté de valoriser la trame verte de cette métropole.
On va le rappeler, 3 canaux, hein. Canal du Midi, quels sont les deux autres pour ceux qui connaîtraient encore mal Toulouse? Les Toulousains savent, mais ceux qui sont installés de fraîche date, peut-être pas.
Alors effectivement, le périmètre du Grand Parc Canal, c'est le Canal du Midi, vous l'avez dit. C'est aussi le canal de Brienne qui va de l'embouchure à la Garonne avec les allées de Brienne. Et puis c'est aussi le canal de Garonne qui va de l'embouchure vers l'océan Atlantique et vers les communes du nord toulousain.
Alors on ne se rend pas bien compte, mais ça fait combien de kilomètres de voies d'eau tous ces canaux?
Alors c'est un linéaire de 30 kilomètres à peu près, un petit peu moins, avec 12 kilomètres, un peu plus de 12 kilomètres en ville pour le canal du Midi et un peu moins de 2 kilomètres pour le canal de Brienne.
Canal du Midi qui, je le rappelle, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et ce depuis 1996. Il y a 4 communes qui sont concernées par le canal du Midi. On pense à Toulouse, mais ce n'est pas la seule.
Alors c'est vrai que le canal du Midi, c'est un joyau qui est adoré par les Toulousains, et pas que par les Toulousains d'ailleurs.
Qui fait la fierté, je pense, même de tout le sud-ouest.
La vraie fierté, c'est l'héritage que nous a laissé Pierre-Paul Riquet. Il a été inauguré en 1681, ça fait un petit moment déjà, un an après la mort de Pierre-Paul Riquet, d'ailleurs, qui n'a pas vu.
Et oui, il n'a pas vu, comme d'autres grands créateurs, il n'a pas vu son œuvre.
Canal qu'il a financé quand même à 20% sur ses deniers propres pour arriver au bout. Donc c'est un joyau, c'est clair. Et puis il y a derrière, quand on remonte sur le nord toulousain, d'autres communes qui sont Saint-Jory, L'Espinasse, Fenouillet et Toulouse. Et donc vous voyez qu'il y a un contexte urbain qui est très différent entre un contexte très urbain au centre de la ville de Toulouse, et puis un contexte qui est plus aérien, plus végétal, vers le nord de Toulouse.
Plus sauvage, dira-t-on, même peut-être, si ouais. Déjà, dans la commune de Toulouse, il y a encore des espaces, il reste des espaces sauvages. Voilà, bon, j'espère que c'est plus clair maintenant et que tout le monde a bien saisi les spécificités des deux projets, le Grand Parc Garonne d'une part et le Grand Parc Canal d'autre part. Nous allons reprendre notre échange dans quelques minutes, après le flash d'information de Corinne Saint-Félix, comme d'habitude, avec qui nous allons prendre le pouls de l'actualité métropolitaine. Métropolez-vous, l'actu. Nous ouvrons ce flash avec une information sanitaire qui va peut-être étonner certains d'entre vous, mais qu'il faut prendre en compte. Les campagnes ne sont pas les seules touchées par la grippe aviaire, les villes le sont aussi.
Oui, la région de Toulouse est aussi touchée par l'épidémie de grippe aviaire. Plusieurs cas ont été repérés sur les moitrieuses. Afin de protéger les élevages avicoles, il est indispensable de respecter plusieurs consignes. Rester sur les chemins balisés lors de promenades, car l'environnement de vie des oiseaux sauvages peut être contaminé. Ne pas nourrir les oiseaux sauvages et ne pas s'en approcher. Éviter tout contact avec ces oiseaux. Autre recommandation, ne pas ramasser d'oiseaux sauvages, même s'ils sont affaiblis ou blessés, et ne pas les apporter dans un cabinet vétérinaire. Pour protéger les nombreuses espèces d'oiseaux qui peuplent les parcs et jardins, la mairie de Toulouse a mis en œuvre dès le 6 mars une stratégie de mise à l'abri. Les volatiles sont capturés puis rassemblés dans des volières au domaine agricole de Candie.
Le sujet de cette émission est le Grand Parc Canal, mais un autre parc métropolitain est à la une de l'actualité. Le projet définitif et détaillé du futur poumon vert de Toulouse a été dévoilé au public.
Oui, il s'agit du Central Park sur l'île du Ramier, un vaste parc qui doit être achevé à horizon 2030 et devenir le poumon vert de Toulouse en plein cœur de ville. Le projet définitif qui a été proposé au public, un projet issu d'une succession de concertations depuis l'automne 2018, a été présenté dans le cadre d'une enquête publique qui a démarré ce lundi 13 mars et qui va durer jusqu'au jeudi 13 avril. Le projet s'étend sur 38 hectares et son coût total a été estimé à 125 millions d'euros. Dès 2023, le projet d'aménagement de l'île prévoit de renforcer des espaces naturels encore sauvages. Le secteur sud et ses berges boisées sera sanctuarisé afin de protéger les milieux naturels sensibles et de développer leur fonction de réservoir de biodiversité. Devant la piscine Nakache, après plusieurs mois d'enrichissement des sols sur l'ancien parking débitumé, mais c'est un jardin botanique qui doit voir le jour en 2025. Cela sera le jardin public central du projet. Il sera constitué d'essences adaptées au changement climatique.
La semaine dernière, nous avons évoqué les nouvelles normes de tri de déchets dans la métropole toulousaine. Et toujours dans le même domaine, un appel à projet est toujours en cours pour accompagner les habitants vers la réduction des déchets.
Lutte contre le gaspillage alimentaire, réemploi des objets, développement d'alternatives aux jetables, développement de la mutualisation des biens et des usages. Toulouse Métropole lance un appel à projet jusqu'au 31 mars pour soutenir de nouvelles initiatives en faveur de la réduction des déchets. Cet appel à projet, sur une durée de 3 ans, à savoir jusqu'à 2025, s'adresse aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et vise à soutenir des projets qui accompagnent les habitants de la métropole vers la réduction des déchets. Les projets devront favoriser les changements de comportement par la réalisation d'actions de prévention, de mobilisation et d'animation et traiter d'une ou plusieurs des thématiques suivantes: le gaspillage alimentaire, la réparation, le réemploi, la deuxième vie des objets, le développement d'alternatives aux jetables via des solutions d'emballage et de contenants réutilisables ou encore le développement de la mutualisation des biens et usages.
Merci à Corinne Saint-Félix pour ce survol de l'actualité métropolitaine. Et François Chollet, il y a plusieurs informations qui concernent votre délégation à Toulouse Métropole. Tout d'abord, la première qui nous apprend que la grippe aviaire touche aussi les oiseaux sauvages, y compris en ville bien sûr. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine, c'est une information à prendre très au sérieux ça.
Je pense que c'est une information, oui, à prendre au sérieux. Il y a deux questions, en fait. Il y a la question de la transmission de la grippe aviaire au sein des oiseaux, dans le monde animal. Et là, on reste dans le monde animal. Et il n'y a aucun intérêt à voir cette expansion se faire et ces contaminations se faire, ni sur le plan des industries agricoles, ni d'ailleurs sur le plan des oiseaux. Ça, c'est une chose. C'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Puis la question qu'il y a derrière, c'est celle de la transmission à l'homme, qui est possible, mais qui, à ma connaissance, n'a pas été détectée à ce jour. Donc oui, je pense qu'il y a un risque réel et que des précautions d'usage doivent se faire. C'est des précautions de principe, mais je pense qu'elles sont nécessaires.
Et puis, la deuxième information à propos du Central Park toulousain sur l'île du Ramier, est-ce que vous avez un complément à apporter à ce qui a été dit dans le flash ?
Non, je pense que vous avez très bien résumé les choses. C'est vrai que c'est un grand projet, donc c'est l'aboutissement de 10 ans de travail, 3 ans de concertation avant ce mandat, et puis nous sommes dans l'exécution, comme vous l'avez dit, la partie nord avec l'ancien parc des expositions qui a été déconstruit, qui est avec la débitumisation que vous avez évoquée sur 10 hectares, fait que nous allons retrouver effectivement un poumon vert. Il y a peut-être une information qu'on peut rajouter, mais que nous avions évoquée ici, je me rappelle, c'est la création des 2 passerelles. Piétons-cycles qui seront situés l'une au nord et l'autre du côté d'Ampalo et qui vont reconfigurer quand même les usages sur cette île. Donc oui, nous sommes dans une phase d'enquête publique. C'est à partir de ce moment-là que les choses sont lancées. La livraison, vous l'avez dit, du jardin qui sera en contact avec la piscine Nakache se fera en 2025.
Eh bien, merci pour ces réactions, ces précisions et ces compléments d'information à l'actualité métropolitaine. Nous allons reprendre maintenant notre discussion autour du sujet principal de ce numéro, le Grand Parc Canal de Toulouse Métropole.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
La seconde partie de Métropolez-vous avec notre invité François Chollet, conseiller municipal délégué à la mairie de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole chargé de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Dans quel contexte est lancé le projet de Grand Parc Canal dans la métropole toulousaine et quels sont ses enjeux? Ce qu'on peut dire, il me semble, c'est qu'il y a un contexte de réchauffement climatique avec des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et prolongés. Donc tout ce qui touche à l'eau et d'une certaine manière à son stockage, évidemment, a un intérêt et je suppose que vous regardez ça de près. C'est un des intérêts de ce projet sans doute.
C'est sûr que cette volonté de promouvoir la végétalisation de la ville fait partie effectivement de la lutte contre le changement climatique. Elle a des avantages en matière de température, elle a des avantages en matière de qualité de vie. Et je pense aussi que c'est un des aspects de l'action de la ville et de la métropole qui sont relativement plébiscités par les Toulousaines et par les habitants de la métropole. Donc oui, l'objectif c'est de valoriser cette trame végétale en lien avec les communes, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi en lien avec les quartiers à Toulouse, de façon à ce que chacun puisse se retrouver et trouver un havre de paix et de fraîcheur au sein de cette trame.
Voilà, et ce sera un complément au Grand Parc Garonne, évidemment. Il y a des connexions quand même entre les deux.
Alors effectivement, il y a des connexions à plusieurs niveaux et nous les étudions. Donc les grands parcs sont des linéaires qui s'étendent sur la longueur de la métropole, mais ils sont tous interconnectés, que ce soit par une trame végétale d'interconnexion, que ce soit par des modes de circulation qui sont des modes doux, piétons ou cycles en particulier.
Ah, il me semble aussi, j'ai pas enquêté là-dessus de près sur les autres grandes métropoles françaises, mais il me semble que c'est quand même une particularité propre à Toulouse, ce grand réseau de canaux à travers la ville.
Alors, il y a d'autres villes qui sont, je pense à Strasbourg par exemple, mais qui sont empreintes de canaux, mais c'est vrai que la particularité de Toulouse, c'est qu'il y a un linéaire et une vie qui s'est construite autour de ces canaux.
En pleine ville.
En pleine ville. Et avec un attachement des Toulousaines et des Toulousains à ce canal du Midi, à sa valeur végétale, mais aussi patrimoniale quelque part.
Il y a l'histoire Riquet, vous avez rappelé.
C'est ça fait partie de l'histoire de la ville, ça fait partie du patrimoine, et je pense que les gens s'y reconnaissent beaucoup.
Les objectifs du projet, alors évidemment, là aussi, c'est créer un autre poumon vert, en quelque sorte.
C'est ça, l'idée, c'est effectivement un autre poumon vert, c'est comme les 3 autres parcs associés. Puis il y a des objectifs qui sont clairement un objectif environnemental, c'est ce que vous venez de dire, avec des objectifs en matière de nature en ville, de biodiversité. Et nous avons, ça fait partie des objectifs que de pouvoir préserver la biodiversité avec l'établissement ou le rétablissement de couloirs écologiques. Ça, c'est une chose. Il y a des aspects qui sont patrimoniaux, on vient d'en parler. Il y a sur le... il y a les écluses, il y a des ouvrages d'art, il y a l'embouchure qui est un site extraordinaire. Puis il y a aussi ce que Voie Navigable de France amène avec les cales du Radoub et avec autour de l'embouchure le bassin des filtres, qui sont des éléments importants. Donc un aspect patrimonial, il y a un aspect probablement urbain et architectural, avec cette nécessité de construire une forme d'harmonie générale tout au long du linéaire de ce canal, en respectant la personnalité de chacun des quartiers, en respectant les usages aussi, et peut-être en créant de nouveaux. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Voilà, puis il y a enfin un aspect économique, il faut le dire aussi. Il y a un tourisme qui peut se développer sur ce... Il y a aussi un mode de transport. Il y a peut-être une industrie du transport fluvial qui actuellement est quasi à l'arrêt, qui peut peut-être reprendre. Et nous sommes en train effectivement de l'étudier.
Alors cet aspect mobilité sur le canal ou sur les berges du canal, pour les piétons, pour les cyclistes, éventuellement peut-être pour les transports en commun, avec des voies qui leur seraient réservées. Vous allez aller dans ce sens. Vous comprenez bien où je veux en venir, c'est que ça va aussi dans le sens de la réduction de la place de la voiture en ville, à Toulouse et autour.
Ah, c'est très clair, l'espace est contraint. Et si nous voulons justement valoriser cette trame verte et puis en faire un havre de paix, apaisé, au moins un secteur apaisé avec des modes doux de transport. Il y a des choix qu'il faudra faire, il faut les faire progressivement, il faut les faire avec les gens et pas contre les gens, mais l'objectif est clairement, et Jean-Luc Moudenc l'a parfaitement déclaré, c'est de diminuer de 50% la place de la voiture d'ici 2030. Et ça va de pair avec la construction et la mise en service du métro, qui constituera une alternative importante, et ce se fera progressivement. Aujourd'hui, il y a effectivement deux voies de chaque côté, au moins deux voies de chaque côté du canal, qui apparaît un peu comme une autoroute urbaine, et c'est effectivement préjudiciable, et c'est quelque chose qu'il nous faut essayer de réduire au profit des déplacements doux, au profit des personnes, au profit d'une forme de bien-être.
Alors ça ne peut se faire tout de même que par la concertation. Je ne pense pas qu'on puisse l'imposer sans qu'il y ait des réactions. Il y a encore des gens, heureusement ou malheureusement, chacun voit ça comme il le veut, qui sont attachés à se déplacer en voiture, en ville, parce qu'ils estiment que c'est nécessaire ou parce qu'ils n'ont pas encore les possibilités de se déplacer avec d'autres moyens.
Oui, alors on ne va pas supprimer la voiture. Il y aura toujours un besoin de voiture, c'est sûr. Mais c'est sûr aussi que si nous voulons diminuer la place de la voiture, ça nous impose de réfléchir. Et de réfléchir, comme vous l'avez dit, avec les gens, avec les citoyens, à travers des concertations régulières. C'est ce que nous avons mis en place très clairement depuis le début de ce projet, à des voies qui sont des voies alternatives, d'abord à la voiture, puis aussi à voir comment se répartira la circulation une fois que ces choses-là se mettront en place progressivement. On est devant un projet qui dépasse le cadre du mandat, simplement, donc c'est du long terme. Mais je pense qu'il faut aussi poser les bases. Et les bases qui sont posées sont des bases qui doivent nous permettre d'envisager une réelle valorisation de cette trame du canal.
Alors pour revenir au Grand Parc Canal, au projet proprement dit, il y a 9 sites qui ont été identifiés pour faire l'objet d'un réaménagement. Quels sont les 9 sites en question et qu'est-ce que vous allez y faire ?
Alors le premier, qui est un peu emblématique du départ du projet Grand Parc Canal, c'est le réaménagement du parvis de Brienne. Donc là, nous allons faire un aménagement piétonné et cyclable sur cet espace-là, au regard de l'école d'économie et de Saint-Pierre-des-Cuisines, qui va rénover l'espace, l'apaiser. Nous allons rénover l'écluse du canal de Brienne également, de façon à finalement donner en quelque sorte le départ de ce grand parc. Ça, c'est prévu, c'est parti. Les travaux seront livrés en 2025. Mais à côté de ça, et tout au long du linéaire, nous avons choisi, en accord avec les gens et selon un accord avec les concertations que nous avons pu déployer, de développer des opérations de ce qu'on appelle du urbanisme tactique.
Alors, faut expliquer. Là.
L'urbanisme tactique, ça veut dire que ce sont des aménagements provisoires qui ne seront pérennisés que s'ils font la preuve de...
Il y a l'assentiment de la population,
du bénéfice qu'il y a là derrière. Alors ça ne veut pas dire qu'on a peur de se tromper, mais simplement quand même, ce sont des changements qui sont profonds. Et donc, il faut quand même tester les choses. Il faut tester de façon à savoir si on peut aller plus loin ou au contraire, s'il faut faire marche arrière. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer au port de l'embouchure, où on va essayer de diminuer un tout petit peu les voies de voiture et puis de proposer un réaménagement. en lien avec le bassin des filtres. C'est ce qui va se passer au niveau de la Trémie des Minimes, et puis après au niveau du port Saint-Sauveur et en aval, avec ce qui se passera autour des cales du Radoub, avec VNF, avec Voie Navigable de France. Donc voilà les quelques éléments d'urbanisme tactique qui seront testés. Alors ça, c'est dans le courant de ce mandat.
Les 8 sites, je les ai sous les yeux, donc je vais les donner. Vous en avez cité certains à peu près tous. Il y a donc le port de l'Embouchure, le port Saint-Sauveur, ça à Toulouse, tout le monde connaît. Il y a les cales du Radoub, là il faut savoir où ça se trouve. Le boulevard Griffoul-Dorval, l'écluse à Fenouillet, on sort de Toulouse. Ouais. Le lac du Bocage, toujours à Fenouillet. Ouais. L'écluse de l'Espinasse, on va à chaque fois un peu plus en aval. Et puis donc la Pignole à Saint-Jory. Voilà, on arrive au bout du territoire métropolitain, sur le canal du Midi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues? Par exemple, je ne sais pas, des espaces d'animation? Ou peut-être, il y a les guinguettes qui se développent un peu partout en ce moment.
Il y a une réflexion sur les usages. Et lorsqu'on écoute ce que nous rapportent les épisodes de concertation, c'est qu'effectivement, les gens veulent pouvoir se promener, les gens peuvent pouvoir déambuler, les gens veulent pouvoir faire du vélo, et aussi donc avoir une forme d'usage rénové, et en particulier ce que vous dites là, qui est pouvoir s'arrêter,
manger, boire,
etc. Ça fait partie du jeu. De la même manière, il faut réaménager avec VNF tout ça, avec Voie Navigable de France, les différents pontons, l'emplacement des péniches. Donc il y a une réflexion sur les usages. Et puis il y a une réflexion aussi, et ça fait partie du projet, sur le canal la nuit. Quelle lumière? Comment on éclaire? En respect avec les... Et avec l'environnement, évidemment.
Et avec le patrimoine.
Avec le patrimoine qu'il faut essayer de valoriser. Avec les usages. Donc voilà les thématiques qui sont sur la table actuellement.
Alors vous parlez des partenaires, le principal c'est VNF, Voie Navigable de France, mais il y a aussi l'atelier de Jacqueline Osti. Alors c'est une grande paysagiste mondialement connue. Hein.
Alors effectivement, donc, c'est Madame Osti et son équipe qui épaulent et qui sont les maîtres d'œuvre finalement de ce projet. C'est un choix, c'est le choix de Jean-Luc Moudin que d'avoir choisi un paysagiste et non pas un urbaniste à la tête de ce projet. Je crois que ça dit bien dans la symbolique les intentions, c'est que le paysage a toute sa valeur dans l'évolution du canal du Midi. Le paysage, c'est pas uniquement les arbres, hein, c'est les arbres avec des maisons à côté, c'est les arbres avec de l'eau à côté, mais c'est une harmonie d'ensemble. Et c'est vrai que Madame Osti, qui a pris en main, et je l'en remercie beaucoup, et de façon très, très volontariste, tout ce projet, amène cette sensibilité paysagère qui est indispensable.
Bah, c'est un décor aussi, tout ça.
Voilà, voilà.
On se déplace dans un décor. Le budget qui a été alloué à ce projet?
C'est un peu plus de 13 millions d'euros sur la période du mandat. Hein, donc, il y en a 9,5 pour le parvis de Brienne. Et puis le reste, ce sont les opérations tactiques et puis les différentes études qu'il y a. Voilà.
Entièrement financées par Toulouse Métropole.
Oui.
Un mot sur les concertations, parce que vous avez employé le terme, il y en a déjà eu, mais ça continue. C'est-à-dire qu'on peut, chaque citoyen peut participer, s'il le souhaite, à des concertations qui ont lieu en ligne. Hein. On se connecte au site de Toulouse Métropole et on peut participer, apporter ses idées, ses remarques.
Alors, c'est vrai que nous avons souhaité que la concertation soit à la base du projet. Dans toute cette phase qui s'achève maintenant, hein, qui est celle de la constitution de ce qu'on appelle le plan guide, qui est le cadre général du projet Grand Parc Canal, il y a plusieurs réunions publiques qui ont été faites. Nous avons interrogé avec l'équipe de Madame Osti 1000 Toulousains, un échantillon de 1000 Toulousains. Il y a un film qui a été fait sur les attentes des Toulousains en matière de Grand Parc Canal. Il y a effectivement, maintenant que nous sommes en phase opérationnelle, des épisodes de concertation qui ne s'arrêtent pas. Le projet du parvis de Brienne fait l'objet de concertation dans son opérationnalité. Maintenant, on n'est plus dans la conception, mais dans l'opérationnalité, il faut continuer de consulter avec les différents aspects, le choix des matériaux, avec la sécurité aussi, qui doit venir là-dessus. Et de la même manière, pour tous les projets d'urbanisme tactique, il n'est pas question de les imposer comme ça. C'est effectivement ce que, avec Madame Ostide, nous avons dans l'esprit, mais il faut que ce soit concerté, il faut que ça parte en concertation, et c'est en train de partir en concertation maintenant. Les réunions commenceront bientôt sur chacun des projets d'urbanisme tactique. Donc c'est cette permanence qui permet de garder le contact justement. Et puis je remercie les gens qui ont participé, parce que je pense qu'ils ont réellement enrichi le projet. Je pense que l'intelligence collective a été au rendez-vous et qu'on fait mieux après concertation, clairement, sur ce projet. Donc ça continuera, oui, et nous y tenons beaucoup.
Bah, il faut dire que c'est un projet qui concerne directement le quotidien des Toulousains et des métropolitains, parce que évidemment tout le monde va en profiter. Ce sera un lieu de promenade pour tout le monde, et je pense même qu'il y a des gens qui viendront au-delà des frontières métropolitaines de toute la région pour se promener à Toulouse au bord de nos canaux.
Absolument, l'enjeu est très fort. Je pense que l'attente est très forte également, et c'est pour ça que c'est important d'être au rendez-vous. Et d'ailleurs, il y a une rencontre importante qui est prévue entre le président, Jean-Luc Moudenc, et les habitants le 15 juin à Saint-Pierre-des-Cuisines. Nous avons présenté le plan guide aux élus, nous avons présenté le plan guide aux personnes qui ont participé directement à la concertation, et donc aux ambassadeurs de Toulouse qui ont été volontaires pour participer à cette concertation. Et il faut maintenant étendre ça et le présenter à l'ensemble de la population, et c'est ce qui se passera le 15 juin.
Eh bien, il est temps de conclure cette émission. Merci d'en avoir été l'invité, François Chollet, de nous avoir présenté le projet du Grand Parc Canal, lancé et mené par Toulouse Métropole, un vaste chantier qui va se déployer jusqu'en 2025 et même au-delà, en même temps que ceux des autres grands parcs métropolitains. Il y en a 5 en tout, vous l'avez rappelé. Pour avoir tous les détails de ces projets, j'invite nos auditeurs à se connecter au site de Toulouse Métropole, www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.